Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu au 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org. Si tu es à l'écoute, c'est que tu ne regardes pas des gars courir après un ballon, c'est que tu as peut-être fini ta prière marseillaise. Alors sois le bienvenu à l'antenne de Radio Canu. Et ce soir donc dans les studios...
Et t'as oublié qu'il avait peut-être digéré le dîner.
Ah oui, aussi, le dîner royal. Eh ben, grosse semaine, dites-moi. Donc ce soir dans les studios, le retour de la grande Clara.
Bonsoir.
Grande en personne, petite en taille, mais grande.
Oh, je suis pas très petite. Oh.
Oui, faut, bon, bref, merde.
Tu vas prendre un truc qui va partir de la technique dans ta tête.
Non, mais comprendre. J'essaie d'être sympa, mais j'y arrive pas.
Jean-Yves, sympa. Faut le dire vite.
C'est antinomique. Il y a aussi Fat dans les studios.
Bonsoir, Jean-Yves.
Bonsoir. Et bah donc, comme tous les dimanches, évidemment, on va vous rappeler comment nous joindre et nous écouter, etc., etc. Alors, si vous voulez nous écrire, n'hésitez surtout pas. C'est à l'adresse mail de l'émission. C'est à la causerie canu. Tout attaché en minuscule, donc lacauseriecanu@gmail.com. Si vous souhaitez, enfin, de toute façon, si vous écoutez en podcast, c'est que vous savez que sur le blog, bah, c'est sur le blog. Donc, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, évidemment, vous tapez la causerie Radio Canu dans votre petit moteur de recherche et il devrait nous trouver.
Il trouvera même les podcasts qui sont un peu partout.
Ben oui, justement, voilà, ça c'était la cool. Suite. Voilà. Bon, ben, ça c'est fait. Donc, on est écoutable sur d'autres plateformes musicales et tout ça, tout ça.
Comme on est vieux, on a une page sur un réseau social qui
de
est...
vieux. De Facebook. Eh ben, c'est super.
Quand on dit ça, tu disais, quoi?
Ouais, désolé, les jeunes sont... Bon, bah, déjà, les jeunes, ça trahit mon âge.
Allez, les galopins. Allons-y.
Allez les Jones, on y va. Donc voilà, on a à peu près tout dit, en tout cas, je pense. Et ben, on va commencer directement. Ouais. C'est Fab. Oui. Tu vas nous parler Disclose, journaliste arrêté, etc.
Exactement.
Etc.
Alors, avant de démarrer ma chronique, je vais préciser quelque chose parce que souvent les gens le font pas et je trouve ça dommage. Je suis donateur à Disclose, donc voilà. Non, mais je le précise parce que souvent les gens parlent de choses et puis on oublie de, comme c'est une ONG, de dire que on est d'accord avec l'ONG dont on va parler. Voilà. Donc du coup, d'accord. Bah oui, ça peut juste dire d'où on parle, voilà, donc je le fais par transparence.
Oh là là, mais quelle honnêteté à l'antenne de Radio Canus, c'est incroyable.
Bah non, je trouve ça normal. Donc en fait, on va commencer par une idée, c'est et si on mettait un peu la pression à une journaliste. Bah, vous voyez, c'est ça qui est bien. Alors vous êtes sans doute habitué à entendre parler de journalistes mis sous pression dans des régimes dits autoritaires, genre la Russie, l'Iran, tout ça, tout ça. Mais quand cela se produit en France, voilà, et ben ça semble pas mobiliser grand monde. Et pourtant, c'est extrêmement grave parce que ben voilà. Hein. Donc on va rappeler, bah oui, c'est grave que de mettre la pression à un journaliste. Je veux dire,
voilà. Oui.
Donc Disclose, on va le rappeler, c'est une ONG de journalistes qui s'est donnée pour mission d'enquêter sur tous les sujets, en particulier sur les secrets d'État. On va rappeler aussi que Disclose ne vit que de dons et ne touche aucune subvention. Et c'est d'ailleurs un média, hein, moi, que je vous recommande personnellement, parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et ces derniers temps, beaucoup de révélations ont été faites par ce média autour des ventes d'armes de la France. Par exemple, que la France a livré des armes à la Russie jusqu'en 2020. Alors qu'elle était censée être sous embargo, la Russie, hein, je vous rappelle. 2014, la Crimée, plus d'armes, machin. Puis nous, jusqu'en 2020, on leur en a vendu. Bon. Que des opérations militaires françaises en Égypte ont permis à l'État égyptien de commettre des crimes d'État. Enfin, pour béton, hein, quand même. Voilà, qu'une vente de Rafale a été signée secrètement entre la France et l'Égypte. Que la France a vendu des armes illégalement à l'Arabie Saoudite, qui était en guerre au Yémen, je le rappelle. Et encore que la France a volontairement fermé les yeux sur le trafic d'armes entre la Libye et l'Arabie Saoudite. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur Disclose. Alors, il n'y a pas que des sujets là-dessus, hein, mais c'est parce que ces sujets existent que la journaliste a été mise sous pression. Et donc, tout cela, donc, je vous rappelle, vous pouvez le voir sur disclose.ong. Et je vous invite à le faire vraiment et à lire ces différents articles parce qu'ils sont très intéressants et un petit peu glaçant quand même. Bref, toutes ces révélations, eh ben, elles n'ont pas plu à notre gouvernement, qui a donc mis la DGSI sur le coup. Oui, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Voilà. Hein, c'est ceux qui sont censés traquer les potentiels terroristes. C'est ça leur boulot au départ quand même. Donc ils se retrouvent à enquêter sur une journaliste, hein, qui s'appelle Ariane Lavrieux. Alors son crime, eh ben, avoir signé les papiers avec d'autres cités aussi dessus, hein, parce que c'est la seule chose qu'on lui a reproché. En gros, on lui reproche son métier de journaliste, ni plus ni moins. Alors c'est marrant, parce que quand en Russie on enferme un journaliste parce qu'il est journaliste, tout le monde trouve ça anormal. En France, on... voilà.
Bah, ça aurait aussi, elle aurait pu aussi exploser dans sa voiture, comme c'est arrivé dans un autre pays européen qui s'appelle Malte, oui, hein, un grand pays très, très ouvert aussi.
Voilà, exactement. Alors, mais surtout, hein, ce que cherche en fait la DGSI, très clairement, c'est ses sources. Bah oui, parce que quand on fait du journalisme d'investigation, souvent on a des sources, et souvent ces sources, il faut les protéger, parce que bah, elles ne sont pas censées vous donner l'info que vous avez. Voilà. Mais la DGSI, elle voudrait bien savoir qui c'est. Alors comme si ça ne suffisait pas, hein, pour avoir fait son travail de journaliste, Ariane Lavrieux a été donc mise en garde à vue 39 heures, 39 heures, hein, c'est long, 39 heures, et son logement a été fouillé, pardon, perquisitionné, parce que c'est le vrai bon mot, pendant 10 heures. C'est long, 10 heures aussi, hein, pour fouiller un appartement. Sachant que, comme elle le dit elle-même, elle n'habite pas dans un palace de 75 pièces. Donc, ils ont vraiment pris le temps.
Ah, hein, ils ont pris le temps, voilà. Ils ont dû bien fouiller, bien perquisitionner.
Ouais, voilà. Parce que oui, en France, donc, vous pouvez, pour avoir éclairé l'opinion publique, hein, parce que c'est ce qu'elle a fait, c'est son métier, avec avoir une enquête, éclairer l'opinion publique avec une enquête fouillée et sourcée, bah, vous pouvez finir au poste et vos affaires peuvent être fouillées comme toute votre vie numérique. C'est sympa, hein, voilà. D'ailleurs, on lui a reproché, j'ai appris ça ce matin, qu'elle avait des boîtes mail cryptées et qu'elle utilisait un VPN. Bah oui, quand on veut protéger ses sources, c'est un peu le minimum. Bon, voilà.
Oui.
Alors, comme le dit Disclose, hein, là je vais les citer, par cette procédure d'exception, parce que oui, c'est une procédure d'exception, l'État semble déterminé à identifier nos sources et à porter gravement atteinte à la liberté de la presse. Je vais le redire, par cette procédure d'exception, l'État semble déterminé à identifier nos sources et à porter gravement atteinte à la liberté de la presse. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête.
Ouais. Mais c'est là où tout État, finalement, peut devenir un État très autoritaire, ou en même temps, il l'est dans son essence. Mmh. Mais c'est dès qu'on touche à ces secrets d'État, parce que c'est bizarre, tous les États ont plein de secrets. C'est quand même marrant, hein. Alors, ils sont censés être représentants du peuple, mais le peuple ne sait pas les secrets que l'État a en leur nom. Enfin, c'est quand même un truc où tu dis... C'est pas très logique, et en même temps, c'est marrant quand même que la patrie des droits de l'homme dont on se gargarise soit si autoritaire.
Bah oui, clairement. Hein. Et c'est clairement pas anodin de voir un État mettre une pression sur un média et ses journalistes, quel que soit l'État en question. Hein. C'est même une preuve de plus de la dérive vers une république illibérale, premier pas vers une autocratie qui ne dit pas son nom. Poutine, en premier lieu, a attaqué la presse et les journalistes indépendants. C'est la première chose qu'il a fait en arrivant au pouvoir dans les années 2000. Et c'est pas pour rien. Et quand la bande à Macron fait de même, devrions-nous trouver ça normal? Je crois pas, en fait. Et on devrait, au contraire, être plusieurs milliers à dénoncer ça en disant « mais c'est inadmissible qu'on ait mis une journaliste... en garde à vue. »
Ouais, mais parce que en fait le problème c'est souvent les gens vont s'arrêter à oui mais c'est une pratique qui a été faite par tel ou tel. En fait on s'en fout de qui fait la pratique.
Non,
c'est
ça,
la
ça
pratique
existait,
qui est problématique.
Ça existait sous Sarkozy.
Oui,
ça
non mais ce que je, oui,
aussi,
que je veux dire c'est la pratique qui est problématique.
Oui, tout à fait.
C'est pas il faut arrêter de se gargariser ou se cacher derrière le fait qu'on serait un État démocratique machin etc.
Oui,
la problématique c'est la pratique. qui l'a fait, on s'en fout en fait.
Alors d'ailleurs, pour ceux qui nous écouteraient, qui se diraient ouais mais ça va, c'est une journaliste, peut-être que c'est parce qu'elle parlait de ça et que du coup c'est pour ça. Alors je tiens juste à rappeler que jeudi en fait trois journalistes de Libération ont été mis en garde à vue parce que, témoin assisté, témoin libre, je sais plus, enfin, c'est un truc bizarre, ils ont été convoqués à la police, c'est pas vraiment une garde à vue mais il fallait quand même qu'ils répondent à des questions, j'adore l'idée, parce qu'en fait ils enquêtent sur la mort, je crois que c'est d'un jeune homme qui a été tué par la police, je sais plus dans quelle ville, pardon, je crois que c'est Rouen de mémoire, et en fait on leur demande oui mais d'où vous sortez toutes les sources que vous avez sur ce que la police elle a fait. Voilà, donc on sent bien quand même que c'est pas le climat est pas terrible non. En ce moment. Alors comme c'est tombé, c'est une méthode de plus en plus répandue, hein, on l'aura compris. Le problème c'est que cette pression mise sur les journalistes d'investigation vient avant tout de lois d'exception, hein, qui permettent de mettre à mal la liberté journalistique. Alors je vais faire un petit rappel historique. La liberté de la presse dont on parle, elle est née au Royaume-Uni à l'origine, puis elle a été étendue à l'ensemble de l'Europe, et elle vient en fait de l'idée que tout État peut avoir sur son peuple la volonté de devenir un État totalitaire. Et en fait, la liberté de la presse, elle naît de journalistes qui avaient révélé en fait des scandales d'État, et on a créé la liberté de la presse pour, et des scandales d'ailleurs liés aussi aux multinationales ou à des choses comme ça. À l'époque, c'était pas multinationales, mais au patronat. Oui. Et en fait, on a créé la liberté de la presse pour dire les journalistes sont un contre-pouvoir. Voilà, c'est pour être clair, c'est de là que ça vient. Et cette liberté, au départ, elle est donc, comme je dis, elle est donc pas un hasard. Hein, c'est un contre-pouvoir et un moyen de mettre à jour les dérives des pouvoirs en place. Pouvoir au sens large, que ce soit le pouvoir patronal, le pouvoir des États, le pouvoir des religieux, toute forme de pouvoir peut être en fait mis à mal, entre guillemets, ou plutôt bousculé par des enquêtes journalistiques.
Bah, finalement, tout cercle de pouvoir doit pouvoir être contrer en fait,
c'est ça,
avoir un contre-pouvoir.
La presse est un contre-pouvoir, ouais. C'est son job. Bien entendu, il y a beaucoup à dire hein, sur le journalisme et son utilisation à des fins pas terribles comme la manipulation de l'opinion. Mais est-on encore dans le journalisme quand on fait de la manipulation d'opinion ? C'est un grand débat et il y a des très très bons débats en ligne d'ailleurs là-dessus, je vous invite à les regarder. Et notamment dans ce qu'on appelle les mass-médias, autrement dit les médias dits capitalistes. Parce qu'il faut faire une distinction, et c'est ça c'est très important, il faut toujours se rappeler de qui vous parle. Quand vous regardez Disclose, par exemple, vous savez, vous avez là les donateurs, vous savez, enfin non, ceux qui veulent bien donner leur nom, mais vous savez qu'ils vivent que de dons, et en fait, ils ont une charte éthique, ils vous expliquent qui ils sont, vous savez tout ça. Bon, quand vous regardez CNews, bah, c'est Bolloré qui est derrière. Quand vous regardez Quotidien, c'est le groupe TF1. Voilà, en fait, il faut savoir de qui vous parle, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, toujours se rappeler de qui vous parle. Bon, si vous pouvez ne pas regarder CNews, faites-le. Voilà. Alors, en fait, cette masse média, en réalité, c'est qu'une toute petite partie des journalistes. La majorité des journalistes sont des journalistes d'investigation. Et ils font bien leur travail. Sauf qu'en fait, ceux qu'on voit le plus, bah, c'est ceux qui sont ultra médiatiques. Donc oui, on connaissait tous Laurent Delahousse, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, bah, c'est pas la majorité des journalistes. Et voilà.
Oui, et puis après, ça vient aussi, ça vient aussi interroger l'indépendance des médias.
Et c'est une vraie question.
C'est une vraie question. Et qui plus est en France, c'est vraiment un truc qui est souvent assez pointé. C'est que même, on peut avoir des, la PQR, presse quotidienne régionale.
Moins indépendante d'ailleurs.
Il y en a un paquet qui en fait appartiennent à des gros trucs, quoi. Enfin, moi j'ai quelques idées comme ça, mais des journaux, je crois en Alsace, qui appartiennent au Crédit Mutuel et qui sont en lien avec d'autres trucs.
Le groupe Ebra.
Ouais, c'est ça. Et en fait, là, effectivement, enfin, mais après, c'est aussi, revient une autre question, c'est qui est prêt à donner de l'argent pour avoir de l'information indépendante.
En fait, aujourd'hui, vous avez...
Et à l'heure du tout gratuit sur Internet, des fois, voilà. Ça vient un peu s'entrechoquer.
En métier non gratuit, c'est-à-dire dans le sens où il faut payer des journalistes, hein, tout simplement. Aujourd'hui, un réellement indépendant, vous en avez trois, en réalité. Hein. Vous avez Mediapart d'un côté, vous avez Disclose, du coup, hein, qui est le truc. Et le troisième est à l'extrême droite, hein, c'est Présent. Voilà, donc ça vous fait peut-être bizarre, mais...
Et rue 89 et tout ça sont...
Alors, rue 89, en fait, c'est une branche du Nouvel Obs. Hein.
Ok.
Donc, ils ont... Enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais ils ont eu très longtemps le Nouvel Obs dans leur...
Ok.
Voilà, ce qui est pas grave, sauf que ce serait bien qu'ils le disent. Bref, mais après, je sais qu'il y a des rues 89 locaux qui essayent de se...
De s'autonomiser, en fait.
Voilà. Donc, il y en a sûrement d'autres, mais à l'échelle nationale, il y a que ces trois-là. Okay. Voilà, donc c'est ça qu'il faut... Voilà, c'est très peu, hein, quand on regarde bien. L'autre, en fait, donc je disais, l'autre partie des journalistes, c'est celle qui veut faire émerger la vérité, qui veut l'éviter aux plus puissants de tourner en rond dans l'eau tranquillement, hein, tout simplement. On en parle souvent, hein, de cela dans la causerie, parce que c'est aussi, on ne va pas le cacher, hein, c'est, sans eux, bah, vous n'auriez pas de causerie. D'ailleurs, que ce soit sur les algues vertes, hein, d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom
Inès
Léraud est fait partie du conseil d'administration de disclose.org, donc voilà, sur le détournement d'argent public, sur bien d'autres sujets, en fait, sans ces journalistes impliqués, bah, on n'aurait pas grand-chose à vous raconter, nous, parce qu'on n'est pas journaliste à la Causerie. Oui. Donc voilà, c'est des métiers qu'on respecte, parce que c'est des métiers qui sont importants. Et ce sont ces journalistes-là, hein, qui sont de plus en plus visés par des lois permettant ce qui est arrivé à Ariane Lavrieux. Ces lois sont souvent mises en place avec une sorte de stratégie du choc. Alors c'est généralement après un attentat, ou d'autres choses comme ça. C'est dans ces moments-là où on n'est pas très très vigilant qu'on va aller attaquer la liberté de la presse ou attaquer la liberté ou la protection des sources. Par exemple, l'idée que les sources journalistiques ne devraient plus être protégées au nom de la protection du pays, c'est venu souvent sur la table ces dernières années. Et c'est en place, plus ou moins, depuis notamment François Hollande et les attentats du Bataclan. Et ça, c'est inadmissible. Je suis désolé de le dire, mais il y a un moment donné, c'est pas le rôle d'un journaliste, même si un journaliste venait à avoir des sources qui viennent d'un extrémiste quelconque, c'est pas son job d'aller vous dire, voilà, c'est, voilà. Et je pense d'ailleurs que ces journalistes, des fois, vont le dire quand même parce qu'ils sont pas bêtes non plus. Oui. Mais c'est, voilà, mais c'est juste qu'à un moment donné, bah, c'est pas leur boulot, ils sont pas flics, ils sont pas la DGSI, ils sont pas, donc il y a un moment, c'est pas le même métier et qui protège leurs sources, c'est légitime. Voilà. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, parce que quand on veut cacher quelque chose, il est quand même plus pratique de cibler les sources pour les faire taire. Donc c'est pour ça qu'on veut s'attaquer aux sources, parce que ce qu'on veut plus, c'est des lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte, ça emmerde le monde, en fait, hein, et ça emmerde surtout les capitalistes et l'État. Donc, bah oui, parce que la volonté qui est derrière, bah, c'est de faire du business tranquille, quand même, hein, faut quand même pas se mentir. En plus de la protection de l'État, les lois d'exception remettent le droit des journalistes en cause. Elles ont vu le jour, notamment dans le droit des entreprises, vous savez, l'interdiction de mettre à mal l'image d'une entreprise, etc., etc. Et en fait, tout ça, eh ben, heureusement, et je vous rappelle, le Conseil européen a cassé cette notion-là en disant, bah non, attendez, il y a un moment donné, vous êtes en train de dire, on n'a plus le droit d'enquêter sur des multinationales. Non, en fait, voilà.
Ça restreint vachement le journalisme.
Bah, c'est-à-dire que d'un coup, enfin, tout, bah, par exemple, le Mediator. Parce qu'il y a une lanceuse d'alerte au départ du Mediator, puis il y a un travail journalistique derrière qui est fait. Bah en fait, si cette loi était appliquée, c'était l'exemple qui avait été pris, bah vous auriez jamais rien su du Mediator. Les implants échures dont on a parlé déjà dans la Causerie, c'est un peu la même chose. Il y aurait aucun journaliste qui aurait pu faire des livres avec des victimes ou des choses comme ça. Et en fait, voilà, bah c'est ça que il y avait cette petite musique de dire oulala, non, là vous avez plus le droit. Et ça n'a rien d'anodin. Hein. C'est quand même une protection claire des multinationales et autres. C'est pas juste un délire de ministre sur une coin de table, parce que des lois comme ça, en fait, elles sont sorties dans tous les pays du monde. Mmh. Voilà. Il y a des pays, ils les ont vite appliquées, hein, d'autres ou non. D'ailleurs, c'est, je le dis, hein, parce que souvent, on ne le croit pas, mais l'un des endroits où ça a été le plus critiqué, c'est les États-Unis. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a une tradition de la presse d'investigation. Ouais. Et quand ils ont voulu mettre une loi qui empêchait, dans le Patriot Act à l'époque, ça a été attaqué immédiatement, et y compris par des gens qui sont descendus dans la rue en disant alors non, parce qu'on veut avoir des journalistes qui ont le droit d'enquêter sur ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Erin Brockovich, qui était connue parce qu'il y a un film qui a été fait sur elle, qui avait pris la tête des gens qui contestaient ce droit-là.
Oui, et puis enfin justement quand je parlais avant de liberté, enfin pas de liberté mais d'autonomie et d'indépendance de la presse, enfin je pensais justement aux États-Unis parce que quoi qu'on en dise, en fait des États-Unis souvent ils regardent un peu les médias, ouais. Certains médias français un peu en se disant mais en fait vous avez pas d'indépendance en fait.
Ah bah clairement.
Alors que même si enfin il y a d'autres travers aux États-Unis, enfin il s'agit pas de.
Oui tout à fait, mais sur la presse.
Mais sur la presse il y a un vrai, il y a vraiment quelque chose, et puis après il y a une autre notion aussi de liberté, ouais. Etc. Puis, qui sont pas les mêmes.
Et puis on va rappeler alors que contrairement à une idée reçue aussi, les Américains achètent beaucoup plus de journaux que les Français. Ce qui est, quand vous achetez des journaux, ça leur permet d'être indépendants. C'est le principe de base, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir un actionnaire qui vient renflouer les caisses. Oui, c'est tout bête. Donc, en fait, si ces journalistes ne peuvent pas enquêter, c'est souvent, en fait, qu'ils sont empêchés par des lois sur la diffamation, sur la protection des entreprises ou autres. Car il faut quand même avoir les reins solides aujourd'hui pour se prendre un procès et des injonctions à l'appel. Parce que ça ne veut pas dire que vous allez forcément perdre vos procès, mais c'est-à-dire que vous allez devoir vous taper des procès, prendre un avocat, vous rendre machin. Enfin, c'est long, quoi. Ça prend
du temps, quand même. Oui, clairement, oui.
Et pourtant, hein, c'est ce que des lois votées en France et en Europe permettent aujourd'hui de faire plus ou moins pourrir la vie des journalistes d'investigation et de potentiels lanceurs et lanceuses d'alerte. Alors, c'est marrant, hein, parce que il y a un adage qui dit que l'on mesure la vitalité d'une démocratie à la protection que l'on apporte à ses journalistes. Voilà. C'est marrant, hein, mais c'est un vrai adage. Donc il est donc inquiétant de voir que nous nous éloignons de plus en plus de ce que devrait être une démocratie libérale à minimum, fut-elle bancale, hein, cette démocratie, je sais pas, voilà, vous connaissez mes idées, mais en tout cas c'est voilà, c'est un peu inquiétant, même très inquiétant. Et d'ailleurs, plutôt aussi inquiétant de voir une bonne partie de la gauche sombrer dans le populisme le plus crasse concernant les journalistes, faisant une sorte d'amalgame douteux et les mettant tous et toutes dans le même panier. Tout comme des anarches qui ont tendance à largement sous-estimer à quel point nous avons besoin de journalistes indépendants et libres pour faire la lumière sur toutes les saloperies qui existent. Parce que oui, c'est un métier, journaliste. Enfin, ça s'apprend.
Ah, mais c'est toute la problématique, en fait. Enfin, là, moi, j'ai une petite pensée pour un certain Jean-Luc Mélenchon qui adore aller sur les plateaux de journalistes et aller leur s'attaquer à eux. Ben en fait, j'ai presque envie de vous dire, mais si ça te dérange d'y aller, n'y va pas, en fait.
Ouais, ouais.
Je veux dire, si t'es pas convaincu de l'autonomie ou de l'indépendance ou de je sais pas quoi du média, n'y va pas, en fait, plutôt que d'aller faire ton show, parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est oui, que ça le sert, en fait. C'est tout le problème aussi. Et après, sur cette notion de même dans nos milieux, en fait, ce qui manque des fois, c'est de la nuance, en fait.
Bien sûr.
C'est-à-dire que il y a des journalistes qui sont, on va dire, plus ou moins alors corrompus, j'ai même pas envie de dire, mais en tout cas qui sont dans des conflits,
complaisants,
etc. Il y en a d'autres qui font leur boulot et que là aussi, en fait, enfin c'est pas méchant, mais des fois j'ai envie de dire, même dans les réseaux mutualistes ou je sais pas quoi, comme Rébellion ou autre, bah en fait des fois ça va s'appuyer sur des travaux de journalistes indépendants ou freelance, etc. Donc en fait, apprenons à mettre de la nuance parce qu'en fait, à ne pas en mettre, on fait le jeu.
Ceux qui aimeraient qu'ils se taisent.
C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire les médias, etc. Ben, en fait, non. Apprenons à mettre de la nuance, justement. C'est aussi ça, l'esprit critique, en fait. C'est nuancer les choses, en fait, quoi.
Tout à fait. Et moi, je rappelais, dans la suite de ma chronique, que dans l'histoire, bien des scandales et révélations sont venus de journalistes qui ont parfois payé du prix de leur vie, de faire exploser la vérité. Tu rappelais, tu rappelais l'explosion de la voiture d'une journaliste à Malte.
Oui.
Bah, c'est un exemple typique, quoi. C'est-à-dire qu'elle a quand même juste enquêté sur la corruption sur l'île.
C'est ça qu'elle faisait.
Et on a fait péter sa bagnole, quoi. Le nier, en fait, et ne pas se soucier de ce qui se passe autour du journalisme en ce moment, c'est affaiblir un contre-pouvoir pourtant très utile, même si parfois, il déboulonne aussi nos idoles et secoue nos certitudes. Mmh. Mais c'est ça le job des journalistes.
Bah, oui, oui.
Donc voilà, ça fait peut-être un peu mal, hein, des fois, quand on a des révélations sur quelqu'un qu'on aime bien. Bah ouais, mais s'il y a des révélations, c'est qu'il y avait des choses à révéler. Mmh. C'est le principe de base. Donc, ce qui vient de se passer, en fait, pour le média Disclose et sa journaliste Ariane Lavrieux, et donc aussi, bah, du coup, aussi pour les trois journalistes de Libération, ne doit pas nous être indifférent et doit nous alerter sur la dérive actuelle qui est plus qu'inquiétante. Et on doit aussi, nous, je pense, reprendre conscience, et c'est ce que tu disais, de l'importance des journalistes. Et voilà. Et j'en profite pour dire une chose très, très bête. Si vous voulez voir ce que c'est que le journaliste d'investigation, le film Algue Verte est toujours, en salle.
C'est vrai, il est toujours en salle.
Oui, il est toujours en salle, dans quelques salles encore sur Lyon. Donc, et je ne sais pas ailleurs, sûrement ailleurs.
C'est vrai.
Mais c'est un très bon film pour comprendre ce que c'est, justement, le journalisme et le journaliste d'investigation, et à quel point c'est compliqué, et à quel point c'est aussi un métier de conviction, de gens qui croient au fait que la vérité est importante, et que voilà, et moi je leur rends hommage parce que je pense que c'est très courageux aujourd'hui de s'attaquer à certains gros.
Bah autant effectivement à Algue Verte, et si vous l'avez jamais vu aussi, c'est Spotlight.
Oui, Spotlight.
Sur des journalistes new-yorkais, non pas New York. Je ne sais plus, mais en tout cas une ville.
Détroit, je crois.
Chicago. Bref, on va tous les faire.
En tout cas,
des journalistes des États-Unis qui ont justement mis à jour des actes de pédocriminalité au sein du clergé américain, etc. Et qui eux aussi ont eu à faire face en fait à des menaces, à des on va pas passer votre papier, etc. Et c'est vraiment, enfin je pense que c'est absolument important de se rendre compte de ce que c'est, et que dans nos milieux on aime bien jouer les gros bras, etc. Bah, qu'on sorte un peu de la posture viriliste qui des fois je trouve en découle, et qu'on apprenne justement à nuancer les choses et se dire bah il y a des journalistes de merde, oui, mais il y a aussi des journalistes qui font très bien leur boulot, et que sans eux, mais en fait même nos propres petits médias on n'existerait pas, parce que je veux dire, faut arrêter de se mentir, nous quand on fait un sujet, enfin
bah, je l'ai dit, hein, moi on cherche nos
trucs dans différents médias, alors on croise les pistes, etc. Mais s'il y avait pas de médias avec des journalistes qui sont payés pour faire du journalisme, en fait, on n'existerait pas, faut arrêter de se mentir.
Non, c'est vrai.
C'est pas avec.
Pas de la même façon, mais on serait plus sûr.
Oui, c'est. Oui. Ou on deviendrait. Oui.
On deviendrait des annonés.
Oui, c'est ça, on deviendrait les petits chefs du petit parti, quoi. Enfin bref.
Et Spotlight, c'était à Boston.
À Boston,
voilà, j'ai cherché
entre temps.
Et ça s'attaquait à l'église catholique.
Oui, c'est exactement ça.
De Boston.
Voilà. Mais voilà, et on y voit aussi les pressions, les coups de pression que les journalistes peuvent subir. Et donc, voilà, faut pas l'oublier, quoi.
Donc, voilà. Je voulais juste ce soir mettre en lumière ce qui se passe, et puis vous rappeler que, soutenir soutenir les journalistes indépendants, ouais. soutenir les journalistes, mais enfin, de toute façon, soutenir les journalistes d'investigation, c'est important parce que c'est eux qui nous amènent énormément d'informations. Mmh. Et voilà, il y a des gens qui se rappellent du Watergate aussi, par exemple, mmh. Sans journalistes indépendants, mmh. sans journalistes d'investigation, vous n'avez pas ces choses-là. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc voilà, c'est un vrai beau métier et il faut essayer de soutenir ceux qui et celles qui méritent d'être soutenus en ce moment. Voilà.
Tout à fait. On passe à la ZIC.
Allez, c'est parti.
Allez.
Yeah.
es dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org et tu viens d'entendre un nouveau titre, oui, un titre tout nouveau, tout beau, tout chaud de Within Temptation avec Bleed Out et Bleed Out. Bon, voilà. Et en tout cas, c'était bien. Oui, je vais pas le prononcer. Ah. Et donc, c'est leur nouvel album qui vient de sortir sur toutes les plateformes et en physique. Donc, fais-toi plaisir, écoute.
Eh ben, très bien.
Voilà. Et Jean-Yves, toi, bah, du coup, bon, moi, je parlais des journalistes d'investigation. Toi, tu t'es dit, si je parlais des complotistes, parce que c'est une espèce de truc qui me fait un peu le contrepoids.
Ouais, pas que.
Et tu nous emmènes en Belgique.
Ouais, c'est ça. Ce soir, je vous propose de faire un tour en Belgique. Là-bas, des réacs et autres fachos se lâchent. Pourquoi ? Eh ben, c'est ce dont on va parler ce soir. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vous propose d'abord d'expliquer ce qu'est Evras. Parce que c'est ce qui est au cœur de ce bordel, en fait. Hein. Evras, donc, c'est un guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Hein. E-V-R-A-S. Vous l'avez ?
Ah oui, d'accord.
Voilà. Il est donc il est mis à la disposition des professionnels intervenant dans les écoles et son but est d'aider les enfants, je cite le site qui est dédié, à devenir des adultes épanouis, chaque enfant et jeune à avoir accès à des informations fiables, complètes et adaptées à leur âge. L'idée est donc hein, qu'en fonction de l'âge des élèves et sur la base des questions qu'ils formulent eux-mêmes, bah, les formateurs y abordent des thèmes tels que les émotions, le consentement, les relations sexuelles, l'identité de genre, la contraception ou encore la prévention vis-à-vis de la pornographie.
C'est la version belge des ABC de l'égalité.
Voilà, c'est
en
un peu ça.
En quelque sorte.
Oui, c'est ça. Alors il faut savoir hein, que ces formations, que les formations s'appuyant sur le guide d'Evras existent dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2012. Mais il n'était, comme le dit le site justement d'Evras, il n'était malheureusement pas investi de la même manière par tous les établissements scolaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y en avait sûrement qui faisaient bien le boulot et d'autres, ça passait un peu à la trappe parce que bon, hein, on a autre chose à foutre. Il faut tenir le programme. Donc il faut l'obliger pour que ça soit dans le programme, qu'on va dire. Donc le 7 septembre dernier, le Parlement de Wallonie-Bruxelles a donc voté un décret instituant 2 fois 2 heures d'animation Evras obligatoire pour les 110 000 élèves de 6e primaire, alors c'est l'équivalent de la 6e chez nous en France, au collège, et de la 4e secondaire, qui est équivalent de la 2e en France. Hein. Donc ça fait 2 heures au collège, 2 heures au lycée. Ça va être hyper utile. Enfin bref.
Ouais, ce sera déjà mieux que rien.
Oui, c'est ça.
On parle donc, de rien partout.
Et bon. C'est ça. Et donc tout ça, hein, bah, c'est un drame hein, pour une partie de Belges. Mais pas que belge. En tout cas, si cela a pu éveiller des peurs, hein, comme toujours, dès qu'on parle sexualité, prévention et tout ça, identité de genre et tout, là, forcément, il y en a qui sont en train de se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire, nos enfants ?»
Ah, c'est le truc où il y a des trucs sur les réseaux sociaux complètement débiles.
Oui, bah, ouais, comme pour l'ABC de l'égalité. Hein.
Ouais, d'accord.
En fait, si certaines ont pu avoir peur, il y en a d'autres hein, qui ont su profiter de ces peurs, comme d'hab, pour diffuser des fausses informations depuis quelques mois. Et là, depuis la rentrée scolaire, les opposants et opposantes se font encore plus voir et entendre. Et je me disais, hein, toute ressemblance avec des événements passés en Belgique ou ailleurs n'est pas le fruit du hasard.
Ah, papa, hein. Une maman, machin, tout ça. Manif pour tous, tout ça.
Alors, pour rappel, en France, nous avions eu droit à des polémiques et des fake news, hein, des fausses infos sur le sujet. Alors, pour rappel, en 2018, avait circulé une fausse info annonçant que Marlène Schiappa avait généralisé des cours d'éducation sexuelle où l'on apprenait la masturbation dès la maternelle. Bien évidemment. En 2019, hein, une autre fausse info virale affirmait qu'un livre scolaire destiné aux enfants de CE1 et CE2 leur apprenait les pénétrations vaginales, anales et orales en faisant alors mention du doigt, pénis et sextoy, en leur conseillant d'être détendus pour avoir moins mal. En fait, il s'agissait en réalité d'une brochure destinée aux adolescents qui commencent leur vie sexuelle. Donc c'est en adéquation avec ce qui se passe quoi. Et qui n'était pas distribué donc dans les écoles primaires.
Ben non, mais enfin on est bête.
Mais non, gardez tout ça en tête. Mm-hmm. Hein. Donc on retrouve hein, les mêmes raclures en Belgique qui diffusent les mêmes conneries et des manifestants et manifestantes qui font preuve de la même bêtise nourrie par les mêmes haines. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il suffit de traverser une frontière et on retombe sur les mêmes énergumènes. C'est vraiment génial. Donc en Belgique, hein, si cela a pris la forme de manifs, dont je reparlerai un petit peu après, il y a également aussi plusieurs écoles. 8 jusqu'ici, qui ont été vandalisés et incendiés dans la semaine du 11 au 17 septembre, avec à l'intérieur des écoles défoncées, bah, des tags qui font allusion à Evras. Donc bon, hein, ça laisse très peu de, comment dire, de doute.
Et pourquoi ils brûlent les écoles?
Parce que c'est le mal, parce que c'est là-bas que va se passer les cours Evras.
Ah, t'as pas compris? Oula,
mais oui, attends.
Ah oui, c'est genre un truc de purification, brûle l'école.
Je sais pas si c'est la purification, non, mais en tout cas, c'est pour montrer la colère.
Oui,
alors, une enquête pour association de malfaiteurs et incendie criminel a été confiée à la police judiciaire fédérale de Charleroi. Et d'ailleurs, il y a, je crois que c'est, alors je sais plus si c'est la, c'est même pas, on dit pas mairesse, c'est bourgmestre en Belgique, elle a parlé d'actes terroristes.
Bah, c'est ce que c'est.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en France, dès que ça concerne l'extrême droite, on a du mal à parler de terrorisme, l'extrême droite nationaliste. Mm-hmm. Mais quand c'est l'extrême droite religieuse, bah, là, on y arrive. Et là, je trouve en Belgique, c'était bien d'oser dire passer du terrorisme.
Concrètement, elle n'a pas d'or parce que c'est foutre la trouille en mettant le feu à des écoles. Bah, c'est pour foutre la trouille. Donc, c'est terroriser la population.
C'est ça.
Donc,
ouais. Alors, concernant les manifs, alors là, un attroupement des plus hétéroclites, enfin, pas tant que ça, à vrai dire. Extrême droite religieuse, catholique et musulmane, extrême droite nationaliste, complotistes anti-Covid reconvertis dans l'anti-Evras, des anciens de la médecine alternative, alors je disais avant belge, mais aussi des Français, parce que ça s'appelle exporter le savoir français.
L'internationalisme de la connerie, de la bêtise,
ça.
Pardon. Parce que c'est, voilà.
Et les discours, les propos et les idées véhiculées dans les manifs comme sur le net sont toujours aussi hallucinantes et toujours aussi bien organisées quand même. Hein. Ouais, parce qu'en fait, Evras, en fait, on se rend bien compte, c'est un peu une opportunité, une vague en fait, sur laquelle surfer. Et je ne peux pas résister, parce que vraiment, c'est tellement succulent de réflexion, à citer quelques exemples pour qu'on se rende bien toutes et tous compte que si cette union peut paraître illogique, si on s'arrête à la forme en fait des différents groupes composant cette union, bah, en fait si on s'attarde sur le fond, bah, en fait on comprend en fait ce qui les rassemble. Hein. Alors quelques petits exemples. Pas de sexualité avant la puberté. Alors déjà, on te parle de cours au collège, donc bon, au collège, on n'est pas loin de la puberté quand même. Hein. Nos enfants sont innocents. Bah, personne n'a dit le contraire. Je crois pas que dans Evras ça commence par les enfants sont diaboliques. Je sais pas quoi. Enfin, c'est ne touchez pas aux enfants. Bah, là c'est pareil. Je crois que dans Evras n'est pas du tout prévu que des enfants soient touchés. Enfin, c'est hallucinant quoi. Plusieurs pancartes visaient aussi. C'est là que je vous disais c'est une vague sur laquelle surfer. Plusieurs pancartes visaient donc des drag queens. Voilà. Et les personnes transgenres, parce que voilà, considérées par des manifestantes comme anormales.
Ah bah,
c'est marrant, en fait, souvent comme on part en fait, d'une soi-disant envie de protéger les enfants à de la haine beaucoup plus ordinaire et consensuelle.
Mais oui, c'est ça.
Hein. Alors, de l'anti-LGBT, anti-genre ou aussi anti-dépénalisation de l'avortement.
Ouais, bah, ça va, c'est
tout ça, c'est vachement en lien avec Evras, t'as bien compris quoi. Que l'on retrouve aussi dans le discours de l'organisatrice en début de la manif qui a eu lieu à Bruxelles, si je me plante pas, le 17 septembre. Manif d'ailleurs organisée par une intégriste religieuse française. C'est génial.
Ah, c'est Civitas, non?
Ah non, elle c'est une intégriste versus islam. Ouais,
ah,
c'est
oui,
non, c'est elle qui soutient un imam de merde, je sais plus.
D'accord,
qui.
Ok. Enfin, bref, une nana sympa.
Une nana aussi sympa que les autres. Que les autres tocards présents à la manif.
On fait de l'humour quand on dit qu'elle est sympa.
Évidemment.
Si vous tombez sur nous par hasard comme ça, vous n'êtes pas sur Radio Courtoisie.
Non, du tout. Et dans d'autres slogans aussi, les manifestantes et manifestants pointent du doigt les associations féministes. Parce que c'est vachement en lien avec Evras, évidemment.
Bah, évidemment, c'est de leur faute.
Ou encore le centre d'action laïque.
Ah ouais,
c'est marrant.
Ils ne seraient pas un petit peu tous des culs bénis, vraiment bien bien bénis?
Alors ça, attends, les organisateurs, en vous disant la suite, ça va répondre à ta question. Les organisateurs et organisatrices veulent défendre, je cite, « la famille traditionnelle ancestrale face à l'idéologie pernicieuse d'Evras ». On n'était pas loin du satanique, mais ils se sont dit non, là, ça va vraiment se voir qu'on est des suceurs de cierges et d'autres choses. Mais non, ils ont utilisé plutôt pernicieuse. Alors, des publications hein, sur les réseaux sociaux, à leur tour, évoquent également, je cite, « un libre accès à la pédophilie dans les écoles » ou encore le fait, je cite encore, hein, « qu'ils veulent faire de nos gamins des trans ». Ça parle évidemment endoctrinement et culture pédophile. Voilà.
Est-ce que les gens vont bien ou...
Je sais pas, j'ai même pas envie de savoir. Enfin, vraiment, enfin bref. Et au sein d'une pétition, ils indiquent, là encore, je cite, que nos enfants seront informés des possibilités de sexe individuel et en groupe à se masturber dès 5 ans dans les écoles et dès 9 ans informés et soumis à la pornographie par des intervenants extérieurs. Là, t'as presque envie de dire, vu qu'ils précisent. Donc si c'était par le curé du coin, est-ce que ça passerait mieux? Je sais pas, mais ou bah l'imam oui. du coin.
Non mais c'est son job.
Si c'est.
Pardon. C'est non mais excusez-nous, on rigole, mais vous, c'est.
Mais devant tant de bêtises en fait, enfin, c'est ouais. soit t'as envie de remettre des tartes à tous, ou mais alors bon, vu qu'ils sont loin, je peux pas. Donc j'en ris quoi, parce que là vraiment.
Mais moi, c'est, ce qui m'inquiète le plus, je le dis souvent, c'est que nous on est adultes, donc on arrive, on a pas de recul qui nous permet d'en rire, et évidemment que c'est des gens que j'ai envie de baffer, mais même si j'aime pas la violence physique, mais ces gens-là, je sais pas ce qu'il faut faire pour. Mais moi, je pense aux gamins, je pense à tous ces. À leurs enfants même. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, encore une fois, c'est comme pour les gamins qui allaient à la manif pour tous et qui, quelques années plus tard, se sont rendus compte, soit qu'ils étaient lesbiennes, gays, trans, et oubliés, qui se rendaient compte qu'ils sont allés hurler contre eux-mêmes, quoi. Ouais. Et à un moment donné, mais il faut avoir un degré de haine, mais vraiment de haine absolue pour tenir de tels propos. Et vraiment, c'est une violence, mais.
Oui, et puis moi, c'est toujours ce truc qu'ils ont cette capacité, quand même, à utiliser les enfants pour derrière déverser leur haine sur des trucs qui sont pas du tout en lien.
Non, mais,
mais ça, on l'a eu avec la manif pour tous en France.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fallait protéger les enfants de quoi, on ne sait pas, parce que je dirais
qu'ils
n'étaient pas concernés par le mariage entre personnes de même sexe, hein, je veux dire.
Non.
Et derrière, en fait, bah, ça aidait, ça permettait de comparer les LGBT à des animaux, qu'ils allaient se marier avec des singes. Enfin, je veux dire, on sait, de toute façon, ces gens-là ferment leur gueule quand il s'agit de violence et de viol et de pédocriminalité dans les églises, dans les mosquées, etc. Et en fait, là, d'un coup, quand on veut apprendre finalement des choses à leurs enfants pour qu'ils apprennent que, bah, tiens, peut-être qu'on va leur apprendre que leur corps est à eux et que personne n'a à le toucher. Bah tiens, en fait, ça les dérange. C'est quand même marrant, en fait. Hein. Vraiment bizarre, ces gens.
Voilà.
Pardon, je m'énerve, il faut que je me calme. Alors, et d'ailleurs, en fait, je vous invite vraiment à lire aussi l'article et l'enquête de la RTBF. Donc, c'est un média belge, vous l'aurez compris, que je propose de mettre sur le blog de la causerie, qui, en fait, démontre justement les liens entre les différents milieux qu'on penserait finalement très éloignés, voire carrément opposés, en fait, alors que, bon, bah, ils sont ensemble dans la rue et ensemble dans leur haine. Alors, ces gens qu'on pourrait penser éloignés, hein, ça va donc de Civitas France et Belgique, hein, de bons fachos catons intégristes, en passant par une influenceuse musulmane sauce d'extrême droite, des assos anti-trans, des pseudo-assos de défense des enfants, ou encore un certain, Carl Zéro, tiens. Bah ouais, évidemment, lui, c'est devenu son nouveau cheval de bataille, hein, c'est la soi-disant pédocriminalité dans des réseaux mondiaux où
satanique.
Tout est organisé. Ouais,
il l'a dit. Hein,
ouais, non, mais de toute façon, t'en as certains, tu dis en fait, ils auraient mieux fait de se passer une corde au cou, quoi. Enfin, vraiment, ça serait tellement mieux, quoi. Le niveau de réflexion, quand même, est tellement haut qu'on a quand même 13 000 personnes qui ont adressé une pétition à Gabriel Attal pour refuser Evras en France.
Mais
bande de glands, quoi.
C'est belge.
En fait, vous êtes juste des abrutis, un ramassis de fond de capote qui aurait dû rester au fond de la capote. Et je sais pas comment ça se fait, ça vous a enfanté, quoi. C'est juste pas logique, quoi.
C'est raclure de bilec, le bilec.
Ouais, mais là, je
fond de capote, c'est pas mal. Je vais la retenir, celle-là.
Oui, pardon. Et, on avait aussi eu droit à une sortie de Rof. Vous savez, le rappeur, tout ça.
Oui, c'est pas la première qui ferait
non,
la chance, là.
Qui nous parle de, je cite, délire progressiste pervers, hein, et autres poésies réactionnaires pudiques. Là aussi, on a envie de se dire, mange ton micro, avale-le, et qu'on t'entende plus, quoi.
Mais il me déçoit, sur le coup. Non, mais Rof me déçoit, parce que la dernière fois, il était pardon, il voulait lancer une croisade anti-woke. Alors, je me dis, il baisse un peu.
Non, non, je trouve qu'il y a une certaine constance, en fait.
Non, mais pardon. Non, mais c'est juste, pardon, j'en ris parce que je vous jure, c'est à force de, désolé, mais c'est que, il y a des fois,
c'est ce qui nous
ouais, ça me permet de survivre. Hein. Oui. Pardon, c'est un peu con, mais, voilà. Mais, Rof, je le dis parce que, il y a des gens qui semblent découvrir dans cette affaire que le mec est un réactionnaire. En fait, Rof, depuis le début de sa carrière, ne sort que des trucs réac. Mais que des trucs réac. Alors, mais ça va loin en plus, hein, parce que je vous invite à aller voir ce qu'il a dit sur le rôle des femmes. Je vous invite à aller voir ce qu'il appelle une bonne mère et des choses comme ça. Vous allez tomber des nues si vous savez pas ce que Rof fait et chante. Mais voilà. Mais effectivement, la dernière fois, c'était une croisade anti-woke. Bon, là, du coup, maintenant, il s'en tient juste à dire que c'est des délires progressistes. Bon, bah, ok.
Pervers quand même.
Ah, pervers quand même. Oh, j'avais oublié.
Pervers.
Donc, voilà. Donc, non, mais, et j'étais un peu étonné de voir plein de gens, en fait, qui écoutent Rof, machin. Mais je me dis, en fait, ils l'ont jamais écouté. Parce que même dans ses textes, dans ce qu'il dit, enfin, c'est évident que ce mec est un rappeur d'extrême droite, pardon, réactionnaire d'extrême droite. Bah, ouais. C'est pas, voilà, ça existe, hein.
Ouais, mais dans les logiciels un peu simplistes de certaines personnes.
Bah ouais, mais sauf que c'est ce qu'il est. Et tous ses positionnements ont toujours été réactionnaires.
C'est
donc,
ça. Bref, vous l'aurez compris, tout cela n'est qu'un ramassis de haine, de complotisme, de moralisme et de pudibonderie. C'est super, n'est-ce pas? Et on comprend donc pourquoi toutes ces personnes si différentes peuvent s'allier?
Ah, bah oui. L'ennemi de ton ennemi est mon ami.
Eh ouais, ensemble dans la même haine, hein, n'est-ce pas?
C'est alors, dur à dire ça, ensemble dans la même haine.
Ouais, j'y suis arrivé. Alors si cela pouvait effectivement rappeler la nécessité et l'importance de faire des sujets, le rapport à soi, le rapport à l'autre, aux autres, la sexualité, le consentement, faire de toutes ces choses-là des sujets, qu'on le foute sur la table, même si certains veulent le balayer, qu'on leur foute devant la gueule, en fait. Parce que justement, si on veut aller vers une société différente, qu'on sort du patriarcat, etc., c'est pas en se couchant devant tous ces réactionnaires, en fait, qu'on y arrivera. Et il va falloir les confronter. Et ouais, il n'y a pas le choix, en fait. Parce qu'ils ne nous laisseront pas passer, hein, sinon vous l'aurez bien compris. Hein. Alors, et aussi, je me disais, bah, de ne pas laisser ça qu'à l'école, en fait. Parce que bon, on sait aussi que les moyens ne sont pas à la hauteur. Hein. On l'a déjà dit plusieurs fois ici. Alors, je pense qu'en Belgique, c'est un peu pareil qu'en France, c'est un peu partout pareil. Hein. Ou pire, hein, au lieu, enfin, pas qu'à l'école, mais aussi, ou pire, à des parents complètement réactionnaires. Parce que finalement, ces pauvres gosses, ils vont peut-être ressembler à... Oui, enfin bref. Pardon, mais réflexion personnelle en même temps, pardon.
Non, on ne ressemble pas forcément à ses parents, mais...
Non, mais je veux dire, on est...
Par contre, ils sont confrontés toute la journée à des idées qui les imprègnent.
Oui, mais sauf que quand tu as des parents qui sont incapables de parler de certaines choses que...
Ah oui, bien sûr, oui.
Bah, en fait, tu vas partir avec beaucoup moins de bagages et moins de capacité justement aussi de pouvoir t'affirmer, de pouvoir... savoir arrêter des choses, enfin tout ça. Donc en fait ça fait vraiment chier quoi. Donc les mêmes, hein, justement je me disais qu'ils croient qu'un papa et une maman c'est le bonheur, bah quand on les voit et on les entend, bah je me demande s'il vaudrait pas mieux être orphelin quand même, vraiment. Parce que là, avoir des parents comme ça, tu dis non mais t'as envie de faire un homicide quoi, enfin y a pas le choix quoi. Okay. Et des fois je me dis ça serait peut-être qu'il faudrait qu'il arrive, enfin bref.
Non, on va peut-être pas faire un appel au meurtre ce soir.
Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas absolument pas dit ça, mais bon, ça s'appelle l'autodéfense. Bref, l'international réactionnaire continue d'agir, de s'organiser, et malheureusement elle ne crèvera pas toute seule. Hein. Il va falloir les aider à s'étouffer en fait, hein, de leur haine, de leurs bêtises. Très souvent béni, oui, hein, parce que souvent quand même il y a Dieu qui est pas loin, hein, Civitas, tout ça, il y a toujours Dieu qui est là. Donc voilà, je vais me calmer, mais non parce que ça m'énerve en fait. Ce qui m'énerve, c'est de voir en fait que je crois que ce sujet je l'ai vu nulle part en fait sur les réseaux rebelles machin truc, alors qu'en fait ça c'est de la merde là. Ça effectivement je vous dis pas les Macron, le capitalisme, c'est de la merde aussi, mais ça faut pas minimiser quoi, parce que eux aussi ils sont transfrontaliers quoi, c'est-à-dire qu'ils s'organisent, on voit hein, enfin vraiment le
ils sont transphobes et transfrontaliers.
Oui, c'est
ils sont
ça.
Beaucoup trans.
C'est la seule fois où ils peuvent utiliser trans parce que sinon ils aiment pas.
Mais non mais c'est vrai, mais c'est en fait tu as raison
et qu'il faut pas le minimiser, je veux dire on l'a vu avec les trans, avec les Bolsonaro, avec plein d'autres, c'est la continuité quoi. Ouais. Et ne pas voir ça comme un danger. Et on peut se foutre de leur gueule en se disant ah ils étaient 2000, mais 2000 qui sont capables de sortir dans la rue. Et là, alors les 2000 à Bruxelles la semaine dernière, c'était majoritairement organisé par des mosquées bruxelloises. Oui. Donc, alors il y avait des civitas et tout, hein, évidemment. Hein. Mais il y a plusieurs mouvements dans tout ce truc-là, et d'autres organisent d'autres choses, etc. Et ils sont vraiment, enfin, le doc de RTBF est vraiment génial parce qu'il vous montre aussi les liens entre les assos, les machins, les financeurs, les... Et on se dit, oui, c'est une vraie internationale réactionnaire. Et je ne pense pas qu'il faille hiérarchiser les internationales à combattre. C'est-à-dire l'internationale capitaliste est à combattre, mais l'internationale réactionnaire, ils seront jamais nos amis. Hein. Enfin, moi, je pars pas du principe que les ennemis de mes ennemis, je sais pas quoi. Non, il va falloir qu'ils connaissent la même route et le même destin que l'internationale capitaliste, en fait.
Alors, juste parce que là, c'était pour que tu aies le temps de redescendre, et c'est un peu pour la blague. Je pars sur un autre sujet, mais qui m'a fait rire. Pas tout à fait un autre, vous allez voir. Donc, en fait, vous avez vu qu'il y a le chef de la secte catholique, là, qui était au stade Vélodrome.
Ouais.
Donc, moi, je croyais qu'il voulait voir un concert de Jul, mais en fait, finalement, c'est lui qui tenait la scène. Donc, il a dit des trucs. Et puis il a dit bon, alors nous on est chrétiens, le message de Jésus-Christ il est hyper cool, Jésus-Christ est un hippie, et c'est vrai que d'ailleurs dans le message de Jésus-Christ il y a des trucs cool, hein, faut quand même le dire. Et il a dit
femme nous fait son coming out.
Si vous lisez vraiment ce que Jésus est censé avoir dit,
oui,
il y a des trucs avec lesquels je suis pas en désaccord, j'aurais aimé vous les uns les autres,
oui, mais on est déjà sur le truc de censé avoir dit, censé être le voilà, fils de Dieu, censé
non mais
Dieu
j'y crois
exister.
Pas hein. J'ai juste que même
ça fait beaucoup d'hypothèses,
non mais
j'ai
juste que même dans sa secte il y a, en théorie voilà. Et lui il est arrivé, alors, papa il a dit ouais coucou, j'ai 86 ans je crois, et ouais, alors maintenant les migrants ils sont super cool, vous allez les accueillir parce qu'on est des chrétiens, aimez-vous les uns les autres, Jésus il l'avait dit, pouf, voilà. Bon alors ça c'était un message, hein, voilà, bon, j'aime pas le pape, mais voilà, je me dis pour une fois qu'il dit pas une trop grosse connerie, c'est pas mal. Et du coup il y a des journalistes justement qui sont allés interroger des catholiques à la sortie de la messe, vous savez, du machin là, une messe de 70 000 personnes quand même, hein. Et là il y a des catholiques qui vous disent alors le pape il a dit ça, mais moi quand même je vais voter Marine Le Pen parce que j'aime pas les migrants. Et là, d'un coup, je me dis, mais même là, ils sont ultra hypocrites parce que c'est ça le prix-là. Pardon de le dire comme ça. Ils sont allés voir un mec qui est leur chef, hein, quand même, en théorie. Ah ouais. C'est quand même le chef de la secte, hein, au départ. Oui. Quoi. Je vous rappelle que le pape, c'est le vicaire du Saint-Esprit. Donc, c'est quand même.
Ah,
quand
bah, il, je veux dire, quand c'est, il parle, c'est direct. Hein.
C'est Jésus ouais. qui parle, quand même.
Hein, c'est le téléphone rouge. Hein.
Ça rigole pas. Ouais. Et ben, je me suis dit, mais même là, le degré d'hypocrisie de ces gens est quand même surréaliste. Et franchement, je suis désolé de le dire, mais c'est devrait démontrer, quand même, par A plus B, à tous ceux qui disent il faut respecter les croyances, les croyants, les machins, tout ça, que je veux bien respecter les croyants en tant qu'être humain, mais alors les croyances, non, parce que franchement, ils en font pas ce qu'ils veulent, et même quand leur chef leur dit soyez pas des fachos, bah ils y arrivent pas. Donc voilà, ouais. Donc du coup, je suis désolé, mais là, je sais plus, on peut plus quoi faire.
Ah non, mais il y a rien à faire, hein, voilà. Vraiment.
Donc voilà.
Peut-être des tonnes d'hosties pour qu'ils s'aident. Enfin bon, c'est des idées, hein. Est-ce que. On passe à la zik?
Ah oui.
Allez, on passe à la zik. Et c'est. Ouais, enfin bref, allez-y, on écoute. Pardon.
Certains disent que la terre est plate. Que veux-tu que je réponde à ça? Si seulement ce monde pouvait s'analyser simplement, s'il suffisait d'un argument pour combler tous nos questionnements. Si c'était si facile qu'une seule famille décidait, tous les autres s'en prendraient au système et le décimeraient. S'il suffisait d'y répondre pour cibler ceux qui dirigent, s'il y avait qu'à claquer une théorie rigide. Si les attentats n'étaient que des scènes de films montées, les familles victimes n'auraient pas eu ce vide à combler. Mais hélas, tout est faux, tout est fable, et les faves de tout bord déforment les faits, les stats. Au-delà des mensonges dangereux, leurs projets, dans le fond, important n'est aucun progrès. Doit-on tenter d'en convaincre certains, ou chercher à les brusquer? Pour l'instant, ils gagnent du terrain, mais comment les faire reculer? Ils sont nos ennemis, comment les faire reculer? Comment les faire reculer? Ils sont nos ennemis, comment les combattre? Ils sont nos ennemis, nous allons les faire reculer.
Dès que la théorie du complot
et les faves de tout bord déforment les faits, les stats.
Dès que la théorie du complot,
les gens qui immédiatement vous disent comme par hasard.
Dès que la théorie du complot,
ils sont nos ennemis, ils sont nos ennemis.
Dès que la théorie du complot,
je vois des conspires partout. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moult tests qui toutes pèsent et fondent. L'audience vous laisse de doux fait compliquer les bassons clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein, nous font l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus complotique, toute presse et sous le couperet tout fait. Et donc faut ajouter des routes et de l'info à qui plaît le complot.
Je suis juifs reptiliens, illuminatifs, francs-maçons, hors nous de genre rétilien, concocterait un plan d'action pour faire venir les Syriens et toutes sortes de migrants masses sombrés seront en nous remplacer et prendre d'assaut nos six grandes nations. Ces gens ne viennent pas en avion, se planquent discrètement dans le camion, ne disposent pas d'argent de taf, non, heureusement la France y'a bon. Internet explique bien via plein de tas de gens pas cons, tout ça se décide bien en amont par les hommes puissants qui ont le bras long. C'est le grand bas de combat qu'on se le dit, ces gens savent donc prédisent que des hordes de musulmans de façon nous grands remplaceront. C'est donc le grand patron, le vice, ils ont la plombe venir sûrement parce qu'on les y encourage vu que ça arrange Macron. Internet en parle donc, j'ai nous dit qu'ils nous en chassons, ça ne sera probablement pas long, tout ça ne tourne vraiment pas rond. Personnellement, je crois qu'on cherche dans ces thèses en carton une explication pas compliquée au fait que nous en bavons. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moule thèse qui toutes pèsent et fond. L'audience vous laisse de tout fait, conclut que les débats sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein nous font l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus complotique, toute presse est sous le couperet tout fait. Et donc, faut ajouter les déroutés de l'info à qui plaît le complot. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moule thèse qui toutes pèsent et fond. L'audience vous laisse de tout fait, conclut que les débats sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein nous font l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus complotique, toute presse est sous le couperet tout fait. Et donc, faut ajouter les déroutés de l'info à qui plaît le complot.
Quelques familles juives de banquiers ont une grande visibilité au 19e siècle. C'est le cas des Rothschild. Certains textes, à gauche comme à droite à l'époque, mettent l'accent sur cela, alors que ce n'est qu'une très petite minorité. L'immense majorité des juifs, notamment en Europe centrale et en Russie, sont des gens extrêmement pauvres.
Nique la théorie du complot, et les faves de tous bords déforment les faits, les stats, nique la théorie du complot, ils sont des ennemis, comment les combattre? Et ben, ça colle tout à fait au sujet dont on vient de parler, n'est-ce pas?
Ben oui.
Parce que, ouais, c'est pas que sur des organisations, je sais pas quoi, mais là aussi, on est, enfin, autour de la Devras en Belgique, on est clairement dans de la théorie du complot qui pue, et ce sont nos ennemis.
Donc, mais qui c'est qui chantait?
C'était donc Dubamix en compagnie de Stratégie de paix et de l'inconsolable, et le titre c'était Foutaise. Je sais que j'ai déjà passé, mais il collait tellement au sujet que
bah,
je vous la repasse. Quoi.
Puis c'est surtout qu'on aime bien Dubamix.
Aussi, donc, mais Greg, là, c'est les textes sur les complotistes ou sur les moralistes, les cubénis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mmh. Ça, c'est un vrai problème. Enfin, bref, on passe au bref parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Allez, tu commences.
C'est moi qui commence. Donc, jeudi 28 septembre, c'est mobilisation pour la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Alors, pour celles et ceux qui ne nous écoutent pas à Lyon, regardez autour de vous, il doit y avoir des choses qui se font. Et à Lyon, ce sera donc à partir de 18h, place de la Comédie, dans le premier arrondissement. Il y aura un rassemblement avec des prises de parole, etc., etc., et sûrement aussi des stands de diverses associations. Donc n'hésitez pas, donc mobilisation pour la journée mondiale pour le droit à l'avortement, jeudi 28 septembre à 18h, place de la Comédie, Lyon 1er.
Et il faut espérer qu'il y ait plus de monde que l'année dernière. Non mais je dis ça parce que c'est un sujet qui se perd malheureusement, et c'est dommage.
Toi.
Je dis ça tout en ne pouvant pas être à Lyon malheureusement. Sinon moi j'ai le 29 septembre donc de 19h à minuit, rendez-vous place Mazagran pour le grand repas anti-CRA. Alors les CRA c'est les centres de rétention administratifs qui sont, je le rappelle, des prisons où l'État enferme les personnes sans papier. Il y en a deux à Lyon parce qu'on est bien doté, et il y en a 25 en partout en France, et il y a 50 000 personnes par an qui y sont enfermées, dont des femmes et parfois des enfants.
Des enfants.
Il paraît que c'est une erreur. Voilà, donc je vous rappelle que dans la loi immigration, qui va être discutée par ce cher Darmanin dans les semaines qui viennent, il y a l'idée d'augmenter le nombre de CRA et d'augmenter le nombre de personnes qui finissent au CRA. Voilà, donc moi je trouve que les prisons, juste parce qu'on n'a pas les bons papiers, c'est pas encore un truc qui est terrible, mais bon, ça est devenu une sorte d'habitude. Et comme ça a été inventé par les socialistes, ça doit être un truc de gauche. Pardon, je m'éloigne. Mais voilà, donc du coup, place Mazagran, 19h à minuit, pour un repas partagé, pour soutenir le Lyon anti-CRA, qui est un collectif qui lutte contre les deux CRA qui sont présents à Lyon. Voilà, et j'avais une autre petite info, mais malheureusement, je n'ai ni date ni lieu pour l'instant. Non, mais je vous le dis, c'est qu'il va y avoir un rassemblement dans plusieurs grandes villes de France, dont Lyon, Paris, Marseille, pour les un an de la révolution iranienne. Voilà.
Je ne vais pas être méchant avec toi, mais c'est déjà passé.
Non, en fait, il y a déjà eu un rassemblement, oui, mais il va y avoir de nouveaux, parce que le rassemblement qu'il y a eu, en fait, a été fait un peu dans l'urgence, un peu partout, et il a été surtout parisien. Et comme on dit, les iraniennes et iraniens concernés, c'était pas suffisant. Voilà. Donc, ils vont repartir, mais ils n'ont pas encore fixé le jour et la date, mais ce sera dans le courant des semaines qui viennent. Voilà.
Okay.
Mais ça nous permet aussi de ne pas oublier que ça fait un an qu'il y a des gens qui font la révolution en Iran.
C'est ça.
Voilà.
Et ben voilà, il est l'heure. On va se quitter. On se quittera en musique.
Mm-hmm. Mais oui.
C'est Clara qui a choisi le titre. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Enfin, non, pas moi.
Non. En fait, je...
Ni moi.
Ok. Bon, bah, je serai tout seul, donc. Et je pense que je vais vous proposer qu'on remue un peu du popotin ensemble et pas que. Mais voilà, donc je pense que je serai là mais pour faire un peu de musical et peut-être, qui sait, vous faire découvrir des artistes ou pas. Mais en tout cas, voilà, passer la musique, la soirée ensemble en musique, ça peut être sympa aussi.
Et moi,
ça vous évitera que je m'énerve derrière mon micro.
Voilà. Et moi, tu seras plus détendu.
Oui.
Moi, je suis obligé de vous abandonner les deux prochaines émissions. C'est un peu à contre-cœur. Alors, pas la prochaine, parce que pour rien vous cacher, je vais voir un concert, donc voilà. Mais celle d'après, c'est un peu à contre-cœur. Mais voilà, du coup, je serai de retour dans deux émissions. La troisième, je serai là. Voilà.
Bon, ok. Donc, dans trois. Ok.
Et ben, très bien. Oui. C'est une suspense.
Quel suspense. Et ben, c'est Clara qui nous annonce le dernier titre.
Oui. Et on se quitte avec Agnès Sobel et le titre Broken Sleep.
Tout à fait. Et ben, je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, 22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien. Et puis des bisous.
Des bisous. Ciao. Et bon courage.
Ciao. Oh, yeah.